Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football ne pense pas encore. Notre slogan se colle bien à l'émission de ce soir, vous allez voir. Le programme à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, accueillez, comme il se doit, Daniel Riolo, bien sûr. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Notre phare à tous, notre gaucher légendaire, Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Il est avec nous tous les jeudis, ou quasiment.
La guest star
du jeudi, exactement. Du jeudi. C'est Willy Sagnol. Salut Willy.
Salut Gilbert, salut à tous.
Je précise que...
Les séries US, à une époque, il y avait toujours une guest dedans.
Ouais, c'est ça.
Guest, c'est la guest juste de l'épisode.
Moi le jeudi, ça me plaît bien. C'est quand on était jeune, il y avait toujours les soirées, soirées médecine, soirées étudiantes. C'est bien les jeudis soirs.
C'est pour ça que tu pars vite à minuit.
Le petit sourire là, de coin. Ah, t'as dû en faire quelques-uns.
Je te dis lesquels.
À Saint-Etienne, il n'y avait que ça à faire. Désolé, les gars.
Je te dis lesquels.
Ma vie, t'as pas fait qu'à Saint-Etienne.
C'est ce que disait celle-là.
Les soirées, attention, les soirées pharma.
Ah non, il n'y avait pas pharma, Saint-Etienne. Que médecine. Soirée médecine, tu vois.
Infirmière, quoi. Bravo.
Médecine, infirmière, c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas les mêmes soirées.
Bon, c'est râpé.
Pourquoi peut-être que Willy était plus infirmière?
Ouais, je sais pas pourquoi. Attends, regardez-le. Faudrait le filmer.
C'est pas beau, hein.
Bon, en tout cas, à 22h, les drôles de dames nous rejoindront. Et à 23h, Julien Cazard, bien sûr. Et l'événement, donc, ce soir, c'est notre système français de formation en débat. On parlera état d'esprit de nos jeunes. On comparera avec le système Red Bull, qui fonctionne très bien en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis. Tout à l'heure, on vous attend au 32-16, bien sûr, pour débattre. On démarrera ça dans une bonne demi-heure maintenant. L'actu du jour, en attendant, avec au programme du Depay, du Grenier, du Cavani. L'actu européenne, ça jouait un peu partout. Hein, dans les grands pays européens, on jouait partout. Encore ce soir en Espagne. On fera le point tout à l'heure avec les drôles de l'âme. Et puis évidemment, le quiz à 23h40, comme tous les soirs, avec de nombreux cadeaux. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live sur Twitter, vous le savez. Direct Studio, évidemment, sur nos applis RMC et RMC Sport. Et puis les directs. Alors, on a d'abord du tennis. Le tournoi de Bercy qui continue. Eric Salio sur place. Qu'est-ce que tu as au programme, Eric?
Salut à tous. Ben, j'ai un beau match. J'ai une finale de grand chelem à vous proposer. Ah, Wawrinka. C'est pas mal. Hein.
Oui.
Bon, pour l'instant, c'est le terrien, c'est Rafa Nadal qui a pris le premier set 6-4 et il y a un partout dans le deuxième set. Wawrinka qui est peut-être.
Ah, le terrien, il a gagné l'US Open en jouant quasiment la finale service volé hein, quand même.
Oui, tu exagères un peu là, mais bon.
Ah non, j'exagère pas, il a bien gagné la finale de l'US Open en montant beaucoup à la volée.
Ouais, de faire croire qu'il a fait survoler tout le match.
Ouais, c'est assez insupportable.
Il l'a beaucoup fait, Eric. Hein.
Je dois dire, Eric, que c'est assez insupportable. À chaque fois que Daniel fait une remarque tennis, je trouve que tu le prends un peu de haut.
Un peu de haut.
T'es un peu hautain.
Le problème, c'est qu'il se croit spécialiste de tennis. Qu'il reste dans le foot, c'est très bien.
Le problème, c'est que ça te vexe d'être sur le stade et d'entendre parler de tennis mieux que toi. Si tu me confirmes, si tu n'es pas foutu de comprendre que Nadal a joué service.
Reprends bien ta phrase. Tu vas réécouter ta phrase et puis on en reparle. Et je vais chercher la feuille de stade de l'US Open. D'accord.
Et tu vas voir que les points importants.
Ça m'intéresse.
Et alors tu vas aller chercher et les points importants. D'accord. Le nombre de fois il a fait service volé lors de la finale sur les points importants.
Quand t'as prononcé ta phrase et tu t'es pas écouté.
C'est vrai.
T'avais l'air de faire croire qu'il a fait service volé tout le match.
Mais service volé tout le match. Personne le fait.
Ah bah alors pourquoi tu dis alors?
Non mais aujourd'hui. Service volé aujourd'hui.
Oui mais donc
époque, plus personne.
À l'arrivée,
surtout pas Daniel Riolo qui n'a pas les moyens physiques. Points, de faire
c'est pas il peut pas.
Personne ne fait service volé aujourd'hui. Mais Nadal, dans cette finale de l'US Open.
Je pense que si je fais service volé avec toi, je m'amuse bien. Parce que la balle ne doit pas revenir souvent.
C'est-à-dire que Daniel n'était pas le Stéphane Edberg des journalistes.
Non, mais en retour de service, Daniel Riolo, c'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que tu peux le faire à un ace sur deuxième balle parce que la balle monte tellement qu'il n'arrive pas à la choper.
C'est assez insupportable, Daniel, excuse-moi, qu'à chaque fois qu'on parle tennis, ça se finit sur ton niveau. Moi, je trouve ça insupportable.
Ouais,
je trouve ça insupportable.
Mais écoute,
on a dit pas les choses qui fâchent.
Le mec a plus rien à dire. Tu vois, c'est malheureux.
C'est comme les footeux qui disent ouais, t'as jamais été sur le terrain.
Ça fait à peu près.
Ça, c'est un peu vrai.
Ça prend. En plus,
le truc, Daniel, tu parles à un champion de France des journalistes.
Ça fait 20 ans qu'il a pas mis les pieds sur un court, mais il parle. Mais je le parle quand il veut.
Tu parles à un champion de France des journalistes, or tu me respectes.
Bravo Eric. J'ai été aussi Eric, sache-le.
C'était quand, quelle année?
En non classé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une catégorie non classée.
Bon, Eric, écoute,
on va se marrer parce que ce soir il y a un super match aussi. Gaël Monfils contre Radu Albot.
Ah ouais.
C'est un match important pour Gaël Monfils parce qu'il peut s'offrir une finale demain, une finale pour aller au Masters de Londres, et ce serait contre Denis Shapovalov.
En plus, c'est Shapovalov.
Donc, tu es avec nous jusque tard ce soir.
À gaucher. Et là, je pense que Jérôme Rotten, il faut qu'il vienne demain voir le Monfils Shapovalov.
Je pense que je vais pas tarder.
Le président de la Fédé, il dort toujours ou il s'est réveillé là pour ce soir?
Tu vas avoir tous les Corses contre toi, toi.
Ouais, fais attention.
Je vais te le dire.
Méfie-toi.
Surtout qu'il est très bien, ce président de la Fédé.
Ouais, en plus.
Contrairement à ce que pensent beaucoup de journalistes.
Hier, il s'est un peu assoupi. Bon, il s'est un peu assoupi.
Ouais, Eric Salio.
À tout à l'heure, Eric.
6-4-1-2 pour Nadal.
Merci, oui. Eric, à tout à l'heure. Alors, l'actu du jour, on y va.
Cette petite les gars. Partie tennis.
L'autre, il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Mais quand il veut, je lui lance 1000 défis. Il vient jamais. Il y flippe. Il aurait trop peur.
C'est facile de parler quand il n'est pas là.
Oui, ça c'est,
je lui ai
ça,
dit
c'est, pas, c'est pas beau.
Mais ouais. 1000 messages, il veut jamais jouer, il a peur.
Bon, s'il vous plaît. La Ligue 1 revient dès demain, bien sûr, vous savez, le PSG est à Dijon. Alors, pas mal d'absents, mine de rien. Thiago Silva est malade. Verratti ne sera pas là. Bon, Neymar, évidemment. Alors, on va écouter Tourelle, parce que conférence de presse
Neymar, aujourd'hui de veille de match. On oublie qu'il est dans l'effectif du PSG. Non mais c'est vrai,
franchement. Mais ça se passe bien là depuis le depuis la reprise là, début août. Il a fait combien de matchs?
Tu sais qu'il a dépassé.
Il a marqué deux buts importants.
T'as vu ça
en 4 mois, c'est bien.
C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, il y a plus de matchs qu'il a ratés que de matchs qu'il a joué.
Bah oui, mais c'est pour ça,
c'est pas mal. Non mais là c'est un mal pour un bien, il se repose, vous allez voir. La fusée au mois de janvier.
Ce sera bien au mois de mars. C'est pas en janvier, c'est mars.
Ah, janvier peut être bien, c'est pas bien mi-février.
Oui, quand le carnaval?
Fin janvier, non?
On regarde le jour de Mardi Gras, c'est les quatre soirées qui précèdent.
Non, mais il y a le carnaval, il y a l'anniversaire.
Le 5, il y a son anniversaire. 5 février.
Non, de sa sœur. Ah non, c'est le.
Non, c'est le sien, le 5.
Ah ouais, sa sœur, c'est 3 semaines après.
Bon, donc, c'est du 21 au 26 février cette année, carnaval.
Ah ouais?
Donc, pas très bien. Il peut y avoir un match avec des champions pour le 8e.
Aïe.
Mais lui, il est plus anniversaire que carnaval. Ah, encore que l'année dernière, il était allé. Ouais.
Bon, il fait un peu les deux.
Un peu les deux. En même temps, c'est dur de se passer du carnaval. Hein.
Bon, c'était quoi? C'était pas le sujet, parce que Tourelle a parlé de Cavani et de son positionnement, parce qu'il l'a remis à gauche l'autre jour.
Ah, oui.
Donc, du coup, on lui a dit bon, bah voilà, à gauche, à droite, dans l'axe, ça se passait pas bien avec Zlatan, tout ça. Écoutez ce que dit Tourelle.
Pour moi, il peut jouer tous les trois postes. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est très fluide. Et pour moi, il va jouer. Si il joue comme à gauche ou à droite, avec sa qualité, avec les caractéristiques, il va jouer cette poste différente que Choupo quand il joue à gauche ou que Pablo Sarabia. Parce qu'ils sont des joueurs différents et
c'est
absolument possible.
Donc en gros, il dit que Cavani est meilleur que Choupo et Sarabia, c'est comme ça que je l'ai compris?
Non, c'est différent. C'est. Choupo, tu lui.
Il peut le mettre sur un côté à partir du moment où il pense.
En même temps, on savait qu'il était meilleur.
Un bon ailier gauche, Cavani peut l'être
non,
aussi.
Non, mais au bout d'un moment, il peut jouer sur les côtés. Après, Cavani a montré depuis un bout de temps que c'était dans l'axe qu'il sentait le mieux. C'est là qu'il fait tourner le compteur. Après, pour le bien de l'équipe, de son effectif, en effet, si pour lui, dans sa tête, à Tourelle, Icardi est le numéro 1, bah, il faut faire un peu de place à Cavani. Donc, oui, en jouant 4-3-3, à part jouer à gauche ou à droite, je vois pas où il peut être. Hein, sinon, il va pas jouer dans le milieu de terrain.
Après c'est pas important le 4-3-3, c'est de la façon dont tu disposes tes joueurs sur un tableau noir. Après ce qui est important c'est dans l'animation, qu'est-ce que tu vas lui demander à Cavani? Est-ce que tu vas lui demander d'écarter pour demander les ballons sur la ligne ou est-ce que tu vas lui demander de venir demander des ballons un petit peu en retrait sur une course un petit peu en diagonale, donc se rapprocher de l'axe? Il y a une grosse différence parce que s'il vient demander les ballons dans l'axe, il sera dans l'axe, il pourra combiner avec d'autres joueurs et presque ce sera comme un avant-centre en espérant que Bernat prenne le couloir derrière. Si, côté droit par contre je le vois pas du tout jouer, autant je peux l'imaginer côté gauche, mais que côté droit non, il a pas la qualité technique pour jouer côté droit, pour
il
avoir du
temps. C'est là
il a fait beaucoup à gauche à l'époque de Zlatan.
À gauche il l'a fait beaucoup mais il était plus jeune, il avait plus de volume. Aujourd'hui, jouer à droite pour un droitier, ça demande quand même une sorte de finesse technique pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et je vois pas Cavani l'avoir.
Ni à gauche, il est à l'aise.
Mais à gauche, il peut. À gauche, on va dire, il peut rentrer en force.
Oui,
mais à droite, il peut pas rentrer de droite à gauche en étant droitier.
À gauche, il est plus facilement dans l'idée de se recentrer comme un deuxième attaquant.
Exactement.
Non, mais c'est vrai qu'avec
en aucun cas c'est sa place.
Avec le volume qu'il a, beaucoup plus qu'Icardi, il peut jouer sur un côté, bien sûr, mais il va manquer des choses. Il va manquer des choses parce que c'est un renard de surface, parce qu'il aime ça, il aime aller faire ce que fait très bien Icardi en ce moment. Le problème, c'est que t'as une place pour deux mecs. Donc bien
ça
sûr,
ça marchait à l'époque. Si vous vous rappelez, ça marchait bien. Pourquoi? C'est parce que le deuxième piston du milieu de terrain, c'était Matuidi. Et donc, quand Cavani était à gauche, Cavani, il allait pas déborder et centrer. On l'a jamais vu déborder et centrer. Il rentrait à l'intérieur et c'était quand il rentrait, il laissait justement la place. J'ai pas dit que ça a marché ou que ça allait marcher ou que ça va marcher.
Ça s'est fait si c'était en Ligue 1. Bon, c'est toujours les mêmes références.
Et puis c'est Matuidi qui prenait cet espace de la profondeur.
Où Cavani avait perdu sa place et a démarré sur le banc. Ça lui est arrivé. Ouais. Je me souviens d'un match. J'essaie de penser au match de Ligue des Champions, celui contre Chelsea où il rentre pour le 2-1. Il était remplaçant.
C'est même arrivé l'année dernière, Daniel, sur des gros matchs. C'est arrivé de faire confiance à Mbappé devant avec Neymar en numéro 10 et Cavani, rappelle-toi, c'était le match à Naples, je crois, où Cavani était remplaçant. Et c'est déjà arrivé dans les choix. Aujourd'hui, ce qui est sûr, le positionnement, c'est une chose. Je pense que déjà, imaginer Cavani sur un côté, ça veut dire qu'il faut imaginer que Thomas Tuchel fait tourner, fait souffler des mecs, parce que des mecs pour jouer sur les côtés, t'en as quand même assez au Paris Saint-Germain. Il parlait de Sarabia, je parle pas de Choupo-Moting, parce que pour moi, il a rien à faire dans cette liste. Mais t'as Neymar, t'as Di Maria, t'as Mbappé, ça suffit quoi. Sarabia, il peut y en avoir d'autres aussi.
Moi, je pense que demain, ça va pas mal tourner, non ? Avant le match qui est mardi, non mercredi.
Mercredi. Ouais, mais si ça tourne, si on n'oublie pas, si ça tourne,
le match,
si ça tourne.
Ils ont joué dimanche.
Ouais, mais justement.
Pas dire qu'ils soient beaucoup fatigués. Non, mais justement. Vendredi, mercredi, il n'y aura même pas trop besoin de faire tourner.
Non, il n'y aura pas besoin, puisque si tu fais tourner entre guillemets tes mecs, tu vas leur couper, tu vas leur mettre 10 jours entre le dernier match et le prochain match. Et alors que c'est des joueurs qui jouent, qui sont habitués à jouer tous les 4 jours, même 3, parfois 4, parfois 5 jours. Mais 10 jours, ça fait beaucoup.
Non, 10 jours, 9, ça fait beaucoup. 9 jours, ça fait beaucoup. C'est pour ça, dans la logique, non, il y aura pas de turnover ou sinon bon, encore une fois
il est possible qu'il le fasse certains pour faire jouer des mecs pour faire jouer Sarabia pour faire jouer
ouais, mais moi je le vois plus faire tourner après le match de Ligue des Champions
ouais, plus possible qu'avant. Ouais.
Alors, 2-3 infos PSG encore. Déjà, sachez que les supporters, donc la grogne monte. Les groupes de supporters du Virage Boulogne n'iront pas non plus à Dijon en solidarité envers le CUP. Vous savez qu'il y a des problèmes de tension entre le club et donc le groupe.
C'est pas très clair hein, les raisons. Hein.
Oui, mais ils n'ont pas voulu les donner en fait, les vraies raisons du conflit.
Des mecs de la sécurité qui en auraient balancé un ou deux membres du CUP aux forces de l'ordre et ils se sont vus interdits de stade.
Ça, je sans crois soutien du club.
Comme ça.
Alors du coup, le CUP s'est rendu devant le siège du PSG cet après-midi. Ils sont arrivés vers 18h. Ils ont chanté, fumigène et tout, devant le siège du administratif du PSG. En chantant Paris, c'est nous. Pour mettre un peu la pression sur le club, on verra dans les semaines qui viennent comment ça évolue.
Et puis alors, ça va bien évoluer parce que alors il manquerait plus que
déjà il n'y aura pas de supporters parisiens à Dijon.
Ouais. Non, mais à l'extérieur encore. Bon, on est aujourd'hui habitué à avoir des équipes malheureusement qui sont pas supportées par les supporters parce que
là il y a pas d'interdiction. C'est eux qui n'y vont pas.
Oui, mais normalement c'est des interdictions. Donc là c'est eux qui vont pas. Mais il faudrait pas que ça dure parce que Paris, même si les prochaines échéances en Ligue des Champions c'est réglé, ils sont qualifiés. Déjà, il ne faudrait pas que ça s'installe une mauvaise ambiance, qu'ils aient plus envie d'encourager leur équipe, parce que déjà, que s'ils n'étaient pas là, le parc soignerait pas creux, mais c'est un silence total, ça serait dramatique pour la suite de la saison du PSG.
Alors, et puis une autre info liée au PSG, mais pas directement, les joueurs de Barcelone, c'est Piqué qui l'a expliqué en fait à la Cadena Ser, la radio espagnole, il a expliqué qu'en fait les joueurs du Barça avaient proposé à leurs dirigeants de retoucher leur contrat pour aider le club à faire venir Neymar. C'est quand même assez étonnant, ça. Alors, quand on dit retoucher, attention, c'était pas non plus genre on fait cadeau de l'oseille. Hein. C'était simplement on s'organise différemment pour le toucher. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Piqué a dit, voilà, nous, on était prêts, par exemple, à recevoir notre dû de la première année ou une partie, la deuxième année ou la troisième année de contrat. Tout ça pour être dans les clous du fair play financier.
Ils l'ont fait.
En l'occurrence, ils l'ont
mais
pas fait.
Ils l'ont fait.
Puisque Neymar
ils l'ont fait. Ils l'ont fait sur le match retour à Liverpool où ils ont dit on va pas faire payer une prime de match au club. Faut que le club garde l'argent pour pouvoir prendre
Neymar.
Non, mais c'est quand même assez, c'est une démarche quand même assez inédite. Et donc, Piqué va plus loin, il explique. On savait que le club avait un problème avec le fair play financier, donc on est allé voir les dirigeants. On lui a dit, au lieu de recevoir ce qui nous était dû cette année, on aurait pu transférer ça sur la deuxième, troisième ou quatrième année de contrat pour qu'il puisse revenir. Et on a dit à Neymar qu'il vivait dans une prison dorée.
Ouais, donc, voilà. Donc en fait, ils ont pas dit qu'ils allaient voir le club pour essayer de faire absolument venir Neymar. C'est juste, bon, au lieu de prendre notre prime là en décembre 2019, on la prendra en décembre 2020. Ça change pas grand chose. S'ils avaient été voir les dirigeants en disant bon, chacun rabote son salaire de 5% pour pouvoir faire venir Neymar, ça aurait eu un sens.
C'est pour ça que j'ai dit ça.
Ça aurait eu un sens. Mais là,
ils n'ont pas fait cadeau de leur salaire.
Surtout pas.
Non, mais ça montre.
Il y a quand même un geste qui est assez étonnant, qui est assez rare. J'ai pas eu vent une autre fois de quelque chose de ce genre. Cette situation, de toute façon, est ubuesque depuis le départ. Hein. Petit à petit, je vais finir par penser, et je le pense presque depuis pas mal de temps, le PSG aurait peut-être pas dû le garder, quoi. Pas s'il y avait eu réellement une offre.
S'il n'y a pas l'offre conséquente.
S'il y avait eu l'offre conséquente, je veux dire, quoi.
Quand tu vois comment ça tourne sans lui.
Mais alors que les dirigeants n'ont jamais voulu l'acheter, tout simplement.
Je crois qu'il faudra, je crois qu'il faudra, en tout cas, si l'offre arrive, ne pas se battre pour le garder, quoi. Vraiment, et surtout pas. Surtout pas.
Mais de toute façon, je pense que maintenant, ils se sont fait à l'idée, malheureusement,
Néanmoins, il faudra quand même qu'un club mette des sous.
Non, mais ils se sont fait à l'idée. Non, mais c'est pour ça.
À l'idée devant. Que c'est sa dernière année.
L'année prochaine, ils en verront là. Comment un club, l'année prochaine, pourra se permettre de mettre 150 ou 200 millions d'euros sur la table, sur Neymar?
Surtout si cette année, encore une fois, il n'est pas au top, s'il ne s'illustre pas. Parce que là, pour moi, il n'a pas encore commencé la saison.
Et oui. Et puis.
Il a encore rien fait, là. Il a mis deux buts dans des fins de match,
mais
personne ne dit que le PSG, jouant à 11 avec un autre mec, n'aurait pas gagné les matchs. Puis même, est-ce que ça aurait été la fin du monde de ne pas battre Strasbourg?
C'est soit t'acceptes sur lui l'année prochaine, tu te fais à l'idée d'avoir perdu beaucoup d'argent et d'avoir fait une erreur de casting en le prenant. En termes d'image, je ne parle pas en termes de talent, parce que le talent de Neymar, on ne le conteste pas. Mais sur son apport, ce qu'il a fait au club, là, sur le terrain et en dehors, soit tu acceptes l'année prochaine de dire, écoutez, une offre à 80 millions, on s'en sépare, et puis c'est comme ça, et puis c'est une erreur, et on s'assoit sur 150, 200 millions d'euros avec tout ce qu'ils lui ont versé. Soit tu veux rester ferme avec, en disant, nous, on veut rentrer dans les clous, on veut récupérer l'argent qu'on a investi sur toi, et dans ces cas-là, tu vas te le trimballer toutes les années de contrat qu'il aura devant lui.
On a Gabriel au 32-16 qui est supporter de Paris, du PSG. Salut Gabriel.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Gabriel.
Gabriel, on a donné plein d'infos, sur Tourelle, Cavani, Neymar, sur laquelle tu réagis, toi?
Moi, c'est plus sur l'aspect tactique. Je vois pas pourquoi vous voulez vendre Neymar, en fait. Ça me paraît un peu... Enfin, je sais pas, moi, j'entends ce que vous dites, mais la première saison, il s'est blessé au pied. Malheureusement, c'est pas de sa faute, c'est pas de son fait. On sait tous que derrière, sa blessure, ça a été soigné à l'arrache par le staff brésilien parce qu'il fallait absolument jouer le mondial. Donc derrière, vous faites une compétition en étant abîmé. Vous revenez, forcément, qu'est-ce qui se passe? Rechute. Voilà. Là, la préparation, je suis désolé, mais sur les blessures depuis le début de saison, et notamment là aussi la blessure de Neymar, je mets en cause quand même la préparation physique. Et bizarrement, ils sont tous blessés au même endroit et quasiment tous en même temps. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Moi, j'en sais rien. Pour ma part, en tout cas, de ce que j'ai vu de Neymar à Paris, quand il jouait en 10, positionné comme ça par Tourelle, sincèrement, il vous transforme totalement le jeu. Moi, j'aimerais bien voir... Alors après, il faut que le 11 complet soit évidemment disponible, mais moi, j'aimerais bien voir cette équipe évoluer en 3-4-1-2. Avec une double pointe avec Icardi et Mbappé. Je pense qu'Icardi, c'est le complément idéal pour Mbappé et Neymar, parce que c'est un vrai joueur de surface qui est capable de garder le ballon, qui est capable de redistribuer autour de lui. Et avec une animation un peu différente, on sait que Gueye, il est capable de faire le travail au milieu pour récupérer. Ça libère Verratti. Vous avez un vrai 6. Et puis derrière, vous avez quand même sur les côtés, Bernat qui fait le taf. Alors oui, ça envoie Di Maria sur le banc. Bon, effectivement. De l'autre, et il faudrait à droit un pendant. Meunier peut le faire, mais pour l'instant, c'est pas ce serait éventuellement le point faible. Mais derrière, ça vous laisse une triplette défensive. Kimpembe à gauche, Thiago Silva dans l'axe, Marquinhos.
Moi, je suis épaté. J'ai de plus en plus de mal à comprendre les supporters.
Non, mais après, attention, Daniel.
Non, mais je comprends pas. Je comprends pas, Gabriel. Mais je comprends rien à ce que tu racontes. Je veux dire, je sais pas quel genre de supporter il y a aujourd'hui. Tu as le droit d'avoir les conceptions que tu veux. Je t'avoue que je ne comprends pas. C'est tout. Comment vous pouvez tout libérer, dire il est extraordinaire, il va nous faire passer, alors que pour l'instant, ça ne s'est pas vu dans les matchs.
Tu parles uniquement de Neymar.
Non, je suis pas d'accord. Alors peut-être qu'effectivement, pour les derniers matchs, ça s'est pas vu parce qu'on a une équipe.
Le PSG n'est pas passé au-delà des huitièmes de finale, Gabriel. C'est juste ça. Et donc, il y a eu ça, plus toute l'attitude, plus tout ce que tu veux. Et
Daniel,
malgré tout, tu veux. Attends, laisse-moi finir. Et malgré tout, tu veux en faire le roi de ton équipe. Et d'une pierre deux coups, tu m'as envoyé Di Maria et Cavani sur le banc. Mais écoute, moi franchement. Je peux même pas dialoguer avec toi parce que je comprends pas comment tu raisonnes, en fait.
Daniel, alors, moi, je vais t'expliquer pourquoi je réagis comme ça. Maintenant, on va parler de Cavani. C'est un joueur que j'adore. Sauf qu'aujourd'hui, le système de jeu du PSG n'est absolument pas fait pour Cavani.
Ah,
Cavani,
d'accord.
C'est un joueur d'espace.
Ah bon.
Qui a besoin de vrais centreurs.
Mais en quoi il a changé?
En quoi il a changé le système?
Explique-nous.
Mais aujourd'hui.
Ah non, mais l'année dernière, les centreurs, ils étaient là ou c'est toujours les mêmes?
Mais ils sont pas là. Ah, je rappelle juste quand même que attendez, les gars. Le 4-0 contre le Barça au Parc.
Non, mais
d'un côté, Draxler.
Ouais. Mais Cavani, il a mis 295 buts au Paris Saint-Germain.
Mais j'entends ce que vous dites, mais l'année où il a été le meilleur, Cavani, c'est avec Unai Emery, dans un jeu qui était extrêmement vertical et direct, ou sur lequel on prenait les espaces dans la profondeur.
Okay.
Et c'était exactement le même jeu à Naples. Et Cavani a toujours évolué dans ce système-là. Ouais, où c'est là,
Gabriel.
Oui.
Moi, je veux pas parler du cas de Neymar. Est-ce qu'il doit jouer ou pas jouer par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit ou.
Non, mais il est là. Qui joue.
Le problème, c'est qu'il faut qu'il joue. Mais il joue pas.
Non,
il est pas là.
La problématique aujourd'hui, et je t'entends, Gabriel, tu dis, ça serait bien de l'avoir en 10 avec deux points devant. Moi, j'essaie de me placer dans la peau de Tourelle ou d'un entraîneur du PSG. Et je me dis, bon, très bien, oui, ça peut sembler séduisant. Qu'est-ce qui se passe quand on perd le ballon à 60 mètres de nos buts? On a déjà nos deux attaquants et Neymar, puisqu'il ne défend pas, on a déjà trois joueurs qui sont éliminés. On a vu depuis 7 ans, je ne sais pas combien au PSG, qu'à partir du moment quand dans une équipe, vous avez plus de deux joueurs qui ne défendent pas pendant 90 minutes, vous ne pouvez pas gagner au plus haut niveau. Aujourd'hui, on est dans des calculs d'hypothécaire. On est en train de se dire, ouais, alors ce serait bien d'avoir dit Neymar en 10 d'apothicaire. Mais moi j'aime bien dire hypothécaire parce que c'est toujours hypothétique. C'est toujours hypothétique. Donc tu as Neymar en 10 parce qu'il peut amener, parce qu'il est plein axe, parce qu'il va prendre les ballons à droite, à gauche, dans l'axe. Voilà.
Ouais,
et puis c'est bien aussi de jouer pas trop parce qu'en même temps on peut laisser de l'espace pour Cavani. Mais ah non, finalement, comme c'est pas Cavani, il faut mettre Icardi, il est pas à l'aise quand il a 45 buts du but adverse. Mbappé, oui, mais Mbappé, pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait de l'espace. Donc on peut pas jouer trop haut non plus, mais si on joue trop bas, Neymar il te sert à rien. En fait, on est toujours en train de se dire, on veut mettre des mecs parce qu'ils ont des qualités, la vitesse de Mbappé, la technique de Neymar, mais on se pose jamais la question d'une, de la complémentarité, et de deux, de l'équilibre d'équipe. Parce que si tu fais un 3-4-3, comme tu me le dis, et qu'au milieu tu veux mettre Gueye et Verratti, il a déjà montré par le passé que quand il joue dans une ligne de 4, il est en difficulté. Dans le domaine athlétique, il est en difficulté parce qu'il n'a pas la capacité athlétique de fermer le milieu de terrain à deux simplement avec un autre joueur.
C'est un génie.
Non, mais avec le ballon, c'est un superbe joueur, Verratti.
Évidemment.
Mais défensivement, quand vous jouez qu'à deux au milieu de terrain et quand il y en a un des deux que c'est Verratti, vous êtes tout de suite en difficulté parce qu'il n'a pas cette densité athlétique.
Merci Gabriel, en tout cas, d'avoir débattu avec nous. Salut!
Bonne soirée à tous.
Merci
Bonne
Gabriel.
Soirée Gabriel. Dans quelques instants, on change de sujet. On reviendra sur l'actu lyonnaise un peu plus tard avec des infos sur le futur brassard de capitaine. On parlera également de Rennes. Mais dans quelques instants, on va se poser des questions, se questionner sur l'état d'esprit de nos sportifs, de nos footballeurs, de nos jeunes. Et on va confronter les opinions, bien sûr, avec des spécialistes autour de la table qui ont bien connu ce qui se fait aussi à l'étranger. Eh oui! Willy en Allemagne, notre invité dans quelques instants qui va arriver, Jérôme aussi, hein. On oublie souvent que Jérôme a bourlingué en Europe.
Ouais.
Eh oui.
Un peu moins que Willy, mais j'ai.
La formation écossaise, la formation grecque.
Je me suis régalé.
Ah, c'était turc.
Turc, pardon.
Ouais.
Ouais, c'est pas loin.
Non mais ça va pas, tu te rends compte ce qu'il dit.
Non, c'est pas loin, alors ils se ressemblent.
Non mais bah, c'est pas loin.
Tout de suite, oh, les raccourcis.
Bah, la l'île grecque la plus à l'est, ouais, bah, elle touche la Turquie quasiment.
Ouais, ouais,
bah,
Bah, Athènes, c'est un peu plus loin quand même.
Point. Alors, le PSG féminin joue ce soir en Ligue des Champions face aux Islandais de Breiðablik. Il y a un partout à 20 minutes de la fin, mais à l'aller, les Parisiennes avaient gagné 4-0 là-bas en Islande. Hein, donc, elles sont tranquilles. Et puis, le tennis, où en est-on, Eric Salio à Bercy.
7-0 pour Rafael Nadal, donc 6 jeux à 4, 4 partout dans la deuxième manche. On a eu une frayeur parce que le médecin est venu consulter Rafael Nadal. A priori, ce serait des maux d'estomac, donc rien de dramatique.
Des soucis à la cantine, peut-être.
Bon, oui, peut-être. Oui.
À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, bien sûr, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, avec Willy Sagnol. Et on accueille notre invité, Martin Desi, qui est entraîneur de tennis, diplômé, diplômé comme il faut, hein, diplômé d'État et tout. Et qui, surtout, a vécu et a témoigné de son expérience de travail à l'international. Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Willy aussi a bossé longtemps en Allemagne, il retournera peut-être un jour d'ailleurs.
Il a bossé, il a joué.
A joué, boulot, non, bossé, c'est le boulot.
Oui, bossé.
Non, mais oui, ouais.
Bon, c'est mieux que travailler pour de vrai, mais c'est bossé quand même.
Oui, on a un contrat de travail, on va dire. Ouais.
Bonne sécurité.
Voilà, joueur, entraîneur évidemment. Jérôme aussi a connu ça. Ouais. Et alors, évidemment, on va partir de votre témoignage qui concerne le tennis. Mais on va le ramener nous au foot, puisque c'est des sujets qu'on aborde très régulièrement dans l'after, à savoir quel est l'état d'esprit de nos jeunes, leur envie de progresser à eux, dans quelle disposition se mettent-ils, eux et leur environnement pour réussir. Et vous, Martin, en ayant travaillé avec différents joueurs de différentes nationalités, vous avez pu toucher du doigt des différences culturelles très importantes.
Oui.
Alors, déjà, bien en face du micro.
Pourquoi il est là? Donc,
je viens de le dire, si t'écoutais.
Mais votre article a fait grand bruit, c'était lundi.
Oui.
Flo Gautreau en a parlé dans l'after lundi soir. On l'avait lu en même temps. Et ça nous avait évidemment intéressé parce que tout ce que vous dites par rapport au tennis peut largement être compris pour d'autres sports en France. Voilà, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous avoir, parce que l'article, je crois que d'ailleurs, vous avez été beaucoup sollicité depuis lundi. Preuve que votre témoignage a touché pas mal de gens, non ?
Bah, y a eu quelques pointures qui semble-t-il, sont...
Des pointures ?
Des pointures,
oui. Ah oui.
Je vais peut-être pas la nommer, parce que...
Bah, si, qui vous a contacté, là ?
Par Twitter, c'est Raymond Domenech.
Aïe, ah oui, non, la pointure, ça va pas. Bah,
c'est pointure de chaussures, ça.
Alors, avant qu'on comprenne pourquoi Raymond Domenech...
Juge-arbitre, le terme juge-arbitre, c'est quelqu'un qui juge de manière pratiquement intègre. Et moi, je fais un constat, c'est pas...
Alors, allons-y, quel est-il ?
Bah, le constat, c'est... parce que j'ai résumé un petit peu...
Vous dites parfois, on survole les choses.
Laisse Martin s'exprimer.
On survole les choses, c'est-à-dire, c'est un creuset de connaissances... on a accès à de l'information libre et derrière, on survole la connaissance.
En France,
on l'applique plus ou moins, on est plus ou moins rigoureux. Et finalement, c'est celui qui en fait le moins, mais qui a un bon bagout. C'est un peu partout. C'est-à-dire, on peut retrouver dans plein d'endroits, à plein de niveaux dans la société, mais c'est qu'on achète une forme de paix sociale. On veut pas perturber.
Donc vous, quand vous avez été au contact de jeunes Français,
on parle de former des joueurs pour le haut niveau. Et là, il faut sortir de sa zone de confort. Alors tout est dit.
Et les jeunes Français ont du mal à le faire.
Ont du mal à le faire parce qu'ils sont déjà conditionnés par les parents derrière. Et eux ne comprennent pas. Il faut en sortir. Si on veut de l'équilibre à tout prix, on va pas au niveau.
Qu'est-ce que vous appelez l'équilibre à tout prix ?
L'équilibre, c'est-à-dire
c'est l'équipe familiale.
De vivre une vie, tu te lèves le matin.
Logique, tu vas à l'école.
Tu déjeunes, tu manges ce que tu aimes. Tu vas à l'école, voir tes potes. Tu vas rentrer, tu fais ça cool. Tu t'entraînes dans de bonnes structures. Surtout, il faut que ça soit pas trop violent. Et derrière, tu as des rêves. Est-ce qu'ils sont pragmatiques, ces rêves ? Et si t'as quelqu'un, un entraîneur, qui veut aller plus dans le dur, je pense que ça va pas le faire très longtemps.
Parce que la famille sera réfractaire, parce que l'enfant sera réfractaire.
C'est un tout, c'est un ensemble de choses.
Ça, c'est une idée. Moi, je suis né en 61. Donc déjà, j'ai été élevé par des parents qui sont pas des baby boomers. Et est arrivé dans les années 60 une grande liberté qu'on a permis dans toutes les démocraties. Ce qui fait que on a eu en France sous les pavés la plage, mais aussi interdit d'interdire. On a expérimenté des choses très, on est allé très loin. On a vu les dommages collatéraux que ça fait. Et aujourd'hui, on a des enfants, des baby boomers. On est déjà rendu à peut-être la deuxième génération. Donc pour eux, c'est très très difficile de. On va dans le sens, il faut être positif. Être que positif quand il faut pousser quelqu'un qui est un peu paresseux. La paresse, ça existe tout.
Ah oui, quand vous dites au Canada, la paresse est plus mal vue. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que la notion de travail, c'est la notion de la nation, la valeur sociale d'un individu passe par le travail. Ça, c'est la culture nord-américaine. Mm-hmm. C'est le plus important. Ici, le travail, vous avez tous été confrontés à ça. Vous travaillez, vous êtes un petit peu, vous avez plein d'ambition, plein de. Souvent, quelque part, derrière, on vous saborde. Mm. Vous faites peur. Cette peur, on la ressent moins un petit peu. On sent plus.
Donc, on est tous le fruit de notre background socioculturel et oui, tout. Oui, donc oui. Là, ce que vous décrivez là, bon, ben, c'est aussi un héritage, un fonctionnement qu'on a français, peut-être, voilà, qui, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération. Donc, c'est très compliqué de changer ça. Est-ce que c'est pas perdu d'avance, en fait? Demain, on sera jamais des Canadiens ou des Russes ou des Américains, nous?
Ça, c'est sûr.
Ouais, les Canadiens parfois, sont pas tellement différents. À vrai dire, moi, ce constat, je l'ai fait lorsque j'ai travaillé en Russie. C'était, parce que c'est un pays qui est spécial par son histoire, ses drames, sa rusticité. Mmh. Les gens sont calmes, ils ne s'emballent que lorsqu'un cas de force majeure frappe à leur porte. Ici, même au Canada, un rien va déstabiliser une famille. On est angoissé quand on rentre dans son parking, on a une super voiture et des voyous peuvent venir. Et tout ça, c'est causé par
en quoi ça va aider le jeune russe par rapport au jeune français?
Le jeune russe, déjà,
pour réussir en sport.
Vous dites le russe, il est très libre par rapport au jugement avoir sur eux.
Oui.
Ça veut dire qu'ici en France, on fait très attention à ce que l'autre va penser de nous.
Tout à fait. Oui.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui,
donc le jeune sportif a du mal à accepter la critique en France par rapport à un jeune russe ou un jeune nord-américain?
Chez les Russes, l'enfant est beaucoup plus libre. Ils sont relativement assez gâtés. Hein. Dans le tennis, entre autres, les parents dépensent des sommes colossales. L'histoire que c'est des morts de faim, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur à cause du. Il y a une crise, il y a un embargo, donc ils en souffrent. Mmh.
Moi, l'image que j'ai des jeunes russes, c'est pas que dans le tennis, c'est dans plein de sports individuels et peut-être aussi dans le foot. C'est souvent les parents investissent tout sur le gamin, suivent le gamin partout. Oui. Donc ça met quand même une pression quand même assez incroyable. C'est en gros ta obligation de réussite. T'emmènes toute la famille avec toi.
Ouais, mais dans beaucoup de familles en France aussi, on mise beaucoup sur le gamin. Beaucoup de mecs dans les centres de formation m'ont dit c'est le gars qui va faire chauffer la gamelle.
Alors,
quoi, quand on sent qu'on a du talent.
La famille aussi supporte derrière en France le gamin. Sauf qu'il génère chez le gamin de l'anxiété.
Mmh. Ah oui, oui.
Et puis s'il se blesse, et puis à l'école, attendez, ça, vous avez.
Oui, vous expliquez, les Russes, l'école, c'est pas un problème, ils arrêtent en fait.
Moi, une fois, j'avais été surpris, j'avais trouvé ça drôle, j'étais avec mon directeur technique dans une académie en région de Moscou, et je lui dis le gamin s'appelait Roman. Alors Roman, les études. Il me regarde, il dit, quoi les études? Il veut être joueur de tennis professionnel. Ça voulait dire les études.
On s'en fout, quoi.
Oui, mais en même temps, ça, ce discours-là, il est quand même compliqué parce que vous pouvez pas. Un gamin ne peut pas abandonner les études à 14 ans si jamais ça marche pas. Exactement. Après pour plein de motifs.
Oui, mais vous avez un système ici qui s'appelle le CNED qui est assez bien fait, qui a été revisé.
Ah oui, ça en France, c'est super bien foutu pour ça, pour le suivi études. Mmh. Ça, l'avantage infrastructure.
Alors attendez, Martin, mais j'aimerais quand même que Willy et Jérôme donnent leur point de vue de ce qu'ils ont vu
pour le tennis,
dans le foot à l'étranger.
Plus que sur le foot, parce qu'aujourd'hui, dans le foot, t'as des structures. les centres de formation sont là pour ça, où ils te permettent de continuer les études.
Bah oui, et voilà, d'alterner. C'est bien foutu aussi.
Donc, oui, oui.
C'est
donc,
très bien fait.
Donc c'est peut-être différent. Ouais, mais le tennis, le petit jeune au tennis peut être amené à plus voyager qu'un jeune au foot. C'est ce que
c'est
dis.
Sûr. Toi. Donc, mais le CNED, donc, il a raison de le dire. Donc, le CNED, ça
le CNED pour les tennismen, je pense que c'est en effet.
C'est grandement amélioré.
Très important. Ouais.
Et c'est.
Alors, mais... Willy, toi qui as vécu, bon, tu as bien vu comment fonctionnait aussi le centre de formation du Bayern, l'état d'esprit des gamins quand ils arrivent en équipe première et tout. Est-ce que tu as constaté une différence? Est-ce que tu rejoins Martin sur la différence entre les jeunes français là, dans les centres de formation et les jeunes allemands?
Oui, oui, il y a des différences. Après, je pense que le foot, il faut pas le traiter de la même façon que tous les autres sports. Ouais. De par sa. Je dirais de par les moyens mis à disposition autour, le foot, il faut le voir d'une manière différente. Après, on peut faire des parallèles entre les centres de formation allemands et français. On peut en faire plein. On peut mettre des différences en avant. La plus grande, c'est sur l'approche du football. Je dirais, même comme on disait avant un peu l'émission, même si c'est en train un peu de changer, j'ai l'impression il y a une sorte de culture, de discipline qui est beaucoup plus forte en Allemagne. Donc ça, c'est du gain de temps dans la formation. Mais moi, je voudrais surtout parler de la formation en France sur le football. Parce que souvent, j'entends les jeunes Français sont feignants, les jeunes Français ci, les jeunes Français ça. Il y a des explications derrière ça. Aujourd'hui, on a des centres de formation en France, mis à part le PSG, et encore, on a vu cet été que ça les a bien aidés. Le but d'avoir un centre de formation, c'est de produire des joueurs pour les vendre. Pour survivre.
Absolument.
C'est très... pas de les faire jouer en équipe première.
Non, c'est très important.
Non, tu es obligé de les faire jouer un peu pour les mettre en valeur.
Ou de faire de la formation de pointe. Oui, c'est de faire comme j'expliquais l'autre fois avec Pierre, c'est de faire du produit standard.
Oui, c'est. Ouais, après, produit standard ou pas. Aujourd'hui, il faut faire, oui, un produit qui va correspondre ou qui va aider tous les championnats.
Exactement.
Avec leurs spécificités. Et les Français, on est très bons pour ça.
Oui.
La problématique, c'est que. On le voit avec l'évolution du foot, les clubs étrangers achètent les jeunes joueurs français de plus en plus tôt. Donc, on doit faire des joueurs prêts de plus en plus tôt dans les formations. Donc, dans les formations, on sait très bien, il y a trois phases. T'as la pré-formation, on va dire de 12 à 15, grosso modo. La formation de 15 à 19, voire 20. Et la post-formation de 20 à 22. Et la post-formation, ce qui était quelque chose de très important à notre époque, enfin avec Jérôme, il y a une vingtaine d'années en arrière. Aujourd'hui, on a complètement squeezé cette post-formation. Pourquoi ? Parce que la post-formation, tu dois faire attention au temps de jeu des joueurs.
Pour la vente,
voilà,
le rapport économique.
C'est sûr, exactement ça. Sûr. Donc de 20 à 22 ans, tu, en plus de tout ton bagage technique, tactique, compréhension du jeu que tu as acquis pendant 5 ou 7 ans, pré-formation et formation, tes deux dernières années étaient surtout destinées à affiner tous ces critères-là, enfin toutes ces compétences-là.
C'était des années extrêmement importantes, mais d'accord.
Très importantes.
Pour
et c'est là aussi.
Pour l'intelligence de jeu, voilà. Pour t'affiner,
ouais, mais non,
faire de toi
surtout,
un vrai pro,
surtout les dernières années, c'est là où vraiment tu apprenais la culture de la gagne. La haine de la défaite, la solidarité.
Ce qui fait de toi un sportif de haut niveau.
Ce qui fait de toi un sportif de haut niveau dans un sport collectif.
Exactement.
Et comme aujourd'hui, t'as les clubs qui veulent plus acheter de Français à 25-26 ans, mais qui veulent les acheter à 20 ans, il a fallu faire des choix. Et les choix dans la formation française se sont portés sur, OK, pré-formation, formation, on garde ça.
Et on vend.
Et on le fait très bien en France. Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est le pays au monde qui forme les joueurs les plus complets dans le football.
Et qui les exporte le plus.
Et qui les exporte le plus, puisqu'ils sont les plus complets, ils s'exportent le mieux. Mais on n'a plus cette possibilité de faire la post-formation, donc tu as de plus en plus de déchets.
Les mecs le bossent à l'étranger après.
Ils l'apprennent, comme on dit, sur le tard, ou comme un uppercut pour ceux que ça ne marche pas, dans des clubs étrangers. Voilà, c'est surtout ça la formation française aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle est très bien, mais les objectifs économiques des clubs ont fait que tu as raboté les deux dernières années qui étaient très importantes.
Dans quelques instants, on continue le débat, il faut qu'on fasse une pause. 32-16, bien sûr, si vous souhaitez réagir. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC 21h30,
l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, on y va avec Daniel Riolo, avec Willy Sagnol, avec Jérôme Rotten. C'est fini entre Nadal et Wawrinka, hein, 6-4, 6-4 pour Nadal. On attend le match de mon fils donc avec Eric Salieu dans quelques instants. Je rappelle qu'on est ce soir avec Martin Désy, entraîneur de tennis, mais on parle au-delà du tennis, de la formation de nos jeunes, de l'état d'esprit français quoi, finalement. Alors tout de même, Martin, on a des grands champions. Je veux dire, un Teddy Riner, un Fourcade, enfin, je le prends au hasard, hein, même là, mon fils qui va jouer bientôt. Enfin, il y a quand même des gars qui arrivent à sortir de la zone de confort que vous définissiez.
Oui, tout à fait. Mais si on regarde leur. Regardez leur. Pas le palmarès. On va en profondeur, on regarde comment ils s'entraînent, leur journée, leur quotidien, mensuellement, d'année en année. Ils sont où les jours de repos? Ils sont où les soirées, parce que vous sortez, vous êtes à haut niveau. Mmh. Vous sortez un jour comme ça, on va juste au restaurant. Il y a un petit peu de cacophonie, on boit un verre ou deux. Attendez, le lendemain, vous en avez pour deux jours. Mmh. Et ça, c'est la réalité du joueur de haut niveau. Mmh.
Pour le coup, tu parlais de zone de confort. Le grand problème d'une génération qui a pourtant été très bonne, si tu prends les résultats, la durée de leur présence dans le top 20, top 30, là, les fameux 4 joueurs français, mais eux, leur zone de confort, la plupart n'en sont jamais sortis. S'ils en étaient sortis pour se faire vraiment mal, il y a au moins un grand chelem qui serait tombé.
Mais ça, on peut pas le savoir.
Ils n'ont jamais voulu sortir de leur zone de confort.
On peut pas le savoir, ça.
Bah, si, mais ça, tout le monde le sait.
Bah, tout le monde le sait. Excuse-moi, tu vis avec Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic. Dire, c'est difficile, il laisse très peu de place.
Je reviens au foot. Donc, tout va bien, là, on est champion du monde.
Bah, je suis désolé.
Non.
Mais on regarde Tsonga, c'est une très belle performance. C'est quand même une puissance hors norme. J'imagine que jeune, c'est des talents. Il a eu des entraîneurs qui l'ont suivi corps et âme. J'en connais un d'ailleurs. Ça coûte sur sa vie familiale. Donc ça prend aussi de l'investissement d'une équipe. Mais aujourd'hui, l'équipe dans le tennis doit être ce qu'on appelle la petite structure pointue et compétente. Le groupe, là on n'est pas au foot, le groupe où vous partez pendant deux semaines faire une tournée, vous perdez au premier tour, vous faites quoi pendant une semaine ou une semaine et demie? Vous entraînez avec les moyens du bord, vous demandez à l'autre, tu peux taper avec moi, t'es plus à l'école, c'est pas facile pour les gamins.
Alors, il y a un truc qui au foot revient souvent, c'est le rôle de la famille et de l'entourage.
Oui.
Comment est-ce que vous analysez ça, vous, pour des sportifs? Est-ce qu'il y a des clés de réussite? Est-ce que la famille...
Voilà, la famille est essentielle.
Donc si la famille se comporte mal ou est un comportement négatif pour le développement du jeune sportif, c'est rédhibitoire.
Bah, c'est-à-dire, c'est pour l'entraîneur, c'est une source de démotivation aussi. Il faut comprendre aussi que les entraîneurs sont peut-être pas toujours prêts à aller au combat avec les parents. Quelquefois, ça se passe bien, mais les parents ont un rôle plutôt de comportemental, d'encouragement, ou bien le parent. Mais quelquefois, c'est les parents qui travaillent beaucoup. Ils sont peu disponibles. Après, la connaissance, ça s'acquiert à n'importe quel âge.
Je pense que
cité comme cible, par exemple, pour le foot, hein, le sport qu'on connaît avec Willy, citer la famille, bien sûr, qu'il y a des joueurs qui vont avoir plus besoin. Moi, je te prends mon exemple. Bien sûr que ça me faisait du bien d'avoir un père qui s'est toujours qui s'est intéressé, qui était proche. Un confident, ma mère pareil, avec d'autres, une stratégie différente, mais t'en as d'autres qui avaient pas forcément la famille à côté et qui arrivent à réussir, à aller au bout d'eux-mêmes, à aller travailler.
Parce donc que ça, il y a pas de vérité. Le centre de formation peut quelque part un peu se substituer, en fait, parce que t'es pris dans un cocon.
Oui, mais sauf que là, je voulais, moi, l'importance, je pense que la préformation, Willy en parlait, avoir un centre de préformation, partir tôt pour certains qui sont dans leur confort, avoir avec des parents très proches, un cercle d'amis aussi très proche, tu sors de cette zone de confort quand tu arrives dans les centres de préformation et ça fait du bien à certains, à d'autres non, à certains oui. Moi par exemple, c'était utile pour que je réussisse ma carrière, c'était utile. À 13 ans, j'ai souffert. Tous les soirs, je pleurais. Pendant 6 mois, pendant 1 an, et puis je suis resté 3 ans au centre de préformation à Clairefontaine. Pourtant, c'est pas une prison. Hein. Tu fais du foot, tu fais les études, c'est magnifique, mais c'est dur.
C'est pour ça qu'à un moment, ils ont tout fait pour rapprocher les gamins et pour faire en sorte qu'ils ne soient pas...
Oui, recrutés dans la zone autour du club.
Oui, mais sauf que tu te crées à 13 ans, 14 ans, 15 ans, on parlait de préformation, après la formation, tu te crées une carapace. Le haut niveau, le sport de haut niveau, et ça, quand tu parles à d'autres sportifs de
haut niveau dans d'autres sports individuels ou collectifs, ils te disent toujours la même chose. C'est la carapace que tu arrives à te créer. Il faut être
finalement dans ces centres de formation, tu es parmi d'autres jeunes, il y a quand même si c'est un sport d'équipe,
une concurrence.
Il y a une concurrence.
Bien sûr. On est tous concurrents, en fait.
La carapace, elle est là. Oui. Donc, l'amitié...
L'amitié, ça a 20 ans.
C'est difficile. C'est quoi quand vous dites, c'est très intéressant, quand vous dites, socioculturellement, la France représente le pays de la peur et du manque de confiance en soi.
Mais parce que les gens sont toujours dans le doute. Je veux dire, là, c'est là le contraste avec les Russes, c'est que même quand le projet est décidé, ou même s'ils vont droit dans le mur, ils y vont. T'as beau essayer de les décourager. Moi, j'ai eu un jeune, finalement, j'ai découvert qu'il y avait d'autres raisons peut-être derrière, mais pour eux, s'ils sont... On y va. On y va. Et derrière,
Il faut il y a une détermination sans faille chez eux que qu'on ne trouve pas forcément en France. Bon. Alors, il y a pas mal de réactions quand même. Ça concerne un peu tous les sports du coup. Wasabi me dit à Fourcade, lui a été biberonné à l'armée. La mentalité n'est pas la même. Bon, je sais pas si évidemment on peut faire des liens directs.
Peut-être qu'il faut chercher aussi. Peut-être. Là,
ça lui a servi à lui.
Il est tout bien sûr. Bien sûr. Il est inspiré de l'armée, je crois.
Oui, exactement. Exactement. Donc, le biathlon.
On choisit un sport en fonction de.
Bien sûr, aussi.
D'une idéologie, d'une. Il y a un rêve derrière tout ça. Et c'est le gamin qui se l'approprie. Bien sûr,
ah, Oulia a toujours rêvé de faire du biathlon, mais
il n'y en avait pas. Non, mais de toute façon, moi j'ai fait du foot parce que dans le village d'où je suis né, de toute façon, il n'y avait que du foot, t'avais pas le choix.
Non, mais il y a un truc qu'on entend souvent dans le foot.
Au-dessus.
Les gars, c'est. Ça peut paraître, vieux jeu ou quoi, mais c'est la fameuse notion de plaisir. Alors on dit toujours, et même aux gamins aujourd'hui, là on parle de haut niveau, hein, on parle pas de sport de base.
Ouais, mais ça, le plaisir. Alors le plaisir.
Dans le foot, on entend toujours, oui, faites-vous plaisir.
Ouais, bah, Je parle de haut niveau. Je suis contre. Alors moi je suis contre cette phrase. Alors je vais te dire pourquoi, Gilbert. Je suis pas contre le plaisir. Mais pour moi, le plaisir,
le haut niveau,
mais
pour, le sport, non mais voilà, de base,
bon. Non mais même au très haut niveau, il y a du plaisir. Mais le plaisir n'est pas un objectif. Le plaisir est une conséquence.
Mais oui, ça vient après.
Tu vas retirer du plaisir d'une performance. Si tu dis à quelqu'un, rentre sur le terrain, fais-toi plaisir. Bah si le mec est nul, tu peux pas lui en vouloir.
Ah ouais. Il se fait plaisir.
Il se fait plaisir. Voilà, je rentre, je regarde les spectateurs, je tape deux, trois fois dans la chic.
Dans la rhétorique des joueurs de foot. Toujours ça, c'est
oui,
pas.
Oui, mais.
Je me suis fait plaisir aujourd'hui.
Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs et d'éducateurs qui le disent. Mais aujourd'hui, c'est notre culture. C'est notre culture pour dire, si tu vois un joueur tendu, tu vas être tenté de lui dire, pour essayer de le détendre un peu, de le décompte. Allez, fais-toi plaisir, rentre.
Dans les causeries d'entraîneurs, combien de fois t'entends ça?
Alors que.
En fait, on définit mal.
Alors que le plaisir est une conséquence. C'est pas ce que tu vas chercher, c'est une conséquence.
Exactement. En fait, on définit très mal cette idée de plaisir. Moi, je comprends pas compris, ce que dit Willy. C'est parce que c'est pour ça qu'on a mis le débat sur le jeu. C'est à chaque fois, on croit que fais-toi plaisir, ça veut dire bien jouer ou pratiquer du beau jeu. Mais non, c'est pas du tout ça. Pour bien jouer le beau jeu, moi je le connecte pas au mot de plaisir dans ce sens-là. C'est si tu as décidé que ton plan c'était de pratiquer ce jeu-là, mais de toute façon, il y aura énormément de travail, de souffrance pour que la conséquence éventuelle soit le plaisir. Si tu as choisi que le plaisir était le beau jeu ou que le plaisir était la performance autrement. On croit simplement que le plaisir, c'est le dribble, le beau geste, le machin, ce qu'on appelle en France, un peu le fameux talent, quoi. Ah, il a du potentiel, il a des talents et on arrête là? Non, il y a tout le reste. Quel est votre avis, vous, là-dessus?
Le plaisir, c'est une notion, pareil, ça vient de quoi? D'une génération de baby boomers. Le plaisir,
c'est un ressenti
qui dure très peu de temps. C'est la victoire. Entre temps, pendant ton match, c'est une confrontation. C'est un élément en face de toi qui va te déstabiliser. Il peut avoir beaucoup de souffrance. On peut peut-être interpréter la notion de plaisir qu'on essaye de lorsqu'on coach afin de décontracter le corps. Pour être plus élastique, pour être plus performant, parce qu'on parle d'un sport où on a besoin de puissance et de précision. Et lorsqu'on est tendu, qu'on n'est pas capable d'évacuer le stress, parce que le stress, il est omniprésent. Donc, il faut arrêter de parler de plaisir. L'entraînement, de faire courir un gamin après son match, parce qu'il a gagné 6-4, 6-0, il faut qu'il aille courir 15 minutes. Bah, c'est pas du plaisir, mais une fois qu'il l'a fait, il a une forme de plaisir, oui, de satisfaction.
Non, mais ça ne veut pas dire que l'entraînement, ça doit être
la mine. Tant qu'on va dénaturer avec ces nouvelles méthodes, parce que ça n'a jamais fait ses preuves. Combien de méthodes on applique aujourd'hui qui n'ont jamais été prouvées dans le temps? Des méthodes d'éducation, mais l'histoire, elle existe depuis très longtemps. Comment on entraînait des jeunes à combattre pour protéger une nation? On peut remonter à Sparte, mais attendez, t'avais pas d'enfants qui se suicidaient, très peu, ou ils se suicidaient par honneur. Donc c'est vraiment, vraiment le milieu socioculturel, il est important. Après, il y a des facteurs qu'on ne parle pas, il y a des facteurs de génétique aussi.
Ah, évidemment, là, restons-nous sur l'aspect socioculturel qui nous intéresse.
Mais dans le sport de haut niveau, de toute façon, le plaisir, souvent dans la douleur, en fait.
Exactement.
C'est ça. Et là, je te rejoins sur le fait que quand tu je sais pas, Willy, si ça te faisait ça aussi, mais pour en avoir parlé à certains, quand tu fais une grosse séance physique,
quand t'es cramé,
voilà, ouais, tu vas au bout de toi. Le mardi en général ou le mercredi quand tu prépares ton match du week-end ou tu c'est des séances qui te cassent la tête, hein, t'as pas envie de le faire. Quand tu finis, tu l'as bien fait, t'as été au bout, t'as cette notion de plaisir, mais c'est très court.
Un gars qui a fait ça, exigne la force.
Exactement. Je te rejoins.
Martin, merci d'être venu en tout cas, c'était très intéressant. Et nous, on va continuer le débat en se plongeant maintenant dans la galaxie Red Bull. Leur méthode, comment ça fonctionne,
Willy aussi.
En Allemagne, aux États-Unis. Willy, merci également.
Willy, c'était un plaisir, comme tous les jeudis.
Et à très vite. Merci. L'after beaucoup revient.
Dankeschön, Willy.
Dans quelques instants, avec vous tous, au 32-16.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.